الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité ce soir de commencer un nouveau surah, la surah Al-Buruj. Et dans cette surah, à travers l'étude des premiers versets, de la première moitié on pourrait dire de la surah, on peut faire une relation directe avec les derniers versets de surah Al-Tariq. Dans le surah Al-Tariq, à la fin, Allah Azza wa Jal a rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que les mécréants, ce que les polythéistes, ce que ses ennemis l'avaient fait subir ou avaient essayé de le faire subir pendant la période mécoise et durant toute la prophétie d'une manière générale. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala laissait ces personnes agir, Allah ta'ala laissait ces personnes se concerter, se réunir, laisser ces personnes unir leurs forces pour essayer de monter des attaques ou des plans contre le prophète alayhi salatu wasalam et ses compagnons radiallahu anhum ajma'in. Mais en finalité, la décision revenait à Allah. Et à travers différents exemples, on a vu que lors de l'immigration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve encerclé dans sa maison par des représentants de toutes les tribus arabes qui sont prêts à l'exécuter, à le tuer immédiatement si il sort de sa maison. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a besoin de sortir. Il faut qu'il quitte sa maison pour aller à Madina, pour pouvoir propager la religion et pour pouvoir prendre le commandement des musulmans à Madina Munawwara. Les conditions sont réunies pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne puisse sortir de sa maison. Parce que la maison est encerclée de personnes qui sont armées. Et c'est un exemple là typique où les personnes, ils unissent leur force, leur intelligence, ils font le ta'awun ala l'ithmi wal udwan. Ils se préparent, ils s'entraident pour faire le mal. Exactement comme de nos jours, il y a des gens qui s'entraident, qui se concertent pour trouver toutes les failles possibles pour faire tomber le musulman dans l'erreur de le péché, pour augmenter, pour inventer toutes sortes de tentations pour soit détourner le musulman du droit chemin ou alors distraire le musulman. Que son temps, l'objectif c'est quoi ? C'est qu'il ne passe pas son temps de l'ibad. Ça c'est le plus important pour ceux qui veulent du mal à l'islam. C'est pas juste de détruire la religion, ça c'est le summum. Mais déjà s'ils peuvent faire en sorte que le mu'min oublie l'essentiel, s'ils peuvent faire en sorte que le musulman oublie qu'il meurt un jour, que le musulman oublie qu'il a un khaliq, qu'il a un créateur, que le musulman arrive à oublier qu'il y a un destin, qu'il y a un taqdir, et qu'Allah est clément, miséricordieux, mais qu'Allah peut en même temps punir sévèrement en cas d'erreur, de choses qu'Allah n'a pas pardonné. Si le musulman arrive à oublier tout ça, ben, pour les personnes qui veulent du mal à la religion, à l'islam, ce n'est qu'une partie remise. Si ces gens-là ne quittent pas l'islam maintenant, mais le fait qu'ils aient oublié ses objectifs, ils savent que la génération qui vient après, cette génération, elle est perdue. Pour ne pas dire qu'elle est foutue. Un papa ou une maman qui grandit, qui eux-mêmes grandissent, des adolescents qui grandissent, qui deviennent parents et qui ont des enfants, mais que ces parents-là, à la base, n'ont pas de iman yaqin, n'ont pas de conviction en Allah, ne savent pas que c'est Allah qui nourrit, ne savent pas que tout a été prédestiné. Ils oublient ou ils n'ont plus conscience qu'un jour ils retournent auprès d'Allah. Donc c'est des parents qui vont inculquer de fausses valeurs à leurs enfants, qui vont expliquer aux enfants que « Oh mon fils, n'oublie pas que tu dois travailler ». Et si tu ne travailles pas, tu n'as pas de bons résultats à l'école, tu ne deviendras pas quelqu'un et il en est fini de ta vie. En aucun cas, ce papa ou cette maman-là va faire comprendre à son enfant qu'est-ce qui te distingue, toi, petit musulman et futur musulman, d'une personne qui n'a pas la foi. Que nos objectifs, ne sont pas les mêmes. Donc ceux qui veulent détruire la religion, s'ils n'arrivent pas à le faire par leurs mains directement, mais s'ils arrivent à enlever les objectifs de l'esprit, du cœur du musulman, leur mission est plus ou moins réussi. C'est comme si vous avez un ordinateur et vous enlevez la carte mère, vous enlevez la clé USB, vous enlevez la disquette, vous enlevez toutes les données de cet ordinateur. Vous allez vous retrouver avec un écran, un clavier et un écran qui est allumé. Mais vous n'aurez rien du tout. C'est pareil. Si le musulman, à notre époque, ça nous concerne, nous, si on a oublié c'est quoi nos objectifs, le retour vers Allah, préparer le akhirat, qu'on a des comptes à rendre sur chaque action, sur chaque parole qu'on va faire, qu'Allah Ta'ala a un tribunal, il y a un mahkama, il y a un moment où les livrets seront remis, on va voir les actions qu'on a accomplies durant toute notre vie et qu'on aura passé sur le sirat, sur ce pont. Et pour passer sur ce pont, il n'y a pas besoin de renommée, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de compte en banque, il n'y a pas besoin de reconnaissance par les gens. Il y a besoin juste la ilaha illallah et il y a besoin des actions. Et que c'est les bonnes actions qui nous permettent d'aller vite et c'est les péchés qui nous ralentissent jusqu'à faire tomber certaines personnes sur le sirat et tomber dans le jahannam. Si moi papa, si moi maman j'oublie ces objectifs, ces choses de base qui font de moi mu'min billah. Parce que mu'min billah, c'est pas juste celui qui fait sa salah. Dans d'autres religions, il y en a qui consacrent beaucoup de temps au culte. Regardez chez les bouddhistes, regardez chez les saïdous, comment on appelle ça, les personnes qui se retirent comme des ascètes, qui passent toute leur vie à adorer, je sais pas quoi, ils méditent, ils adorent leur divinité. Ils consacrent leur temps à leur divinité, ils consacrent leur corps au spirituel. C'est-à-dire nous aussi on fait les ibadat, mais il ne faut pas que ce soit des ibadat vides. Il faut faire attention que nos actions n'aient pas d'âme, de ruh. On a expliqué la dernière fois, on peut voir deux musulmans qui font namaz côte à côte. Il y en a un qui a la conviction qu'il est devant le trône d'Allah, qu'Allah l'observe. Comme les sahaba, radiallahu anhu majma'in, quand ils faisaient la salat, ils savaient exactement qu'ils étaient en communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fait qu'ils arrivent à contrôler leur regard, contrôler leurs paroles, contrôler leurs gestes, contrôler leurs pensées. Pour propulser ce namaz-là un degré de khushu', concentration et dévotion, qui fait qu'il n'y a plus de frontière entre l'être humain et Allah Azza wa Jal. Ils avaient atteint le degré de ihsan. Ils adoraient Allah comme si qu'ils voyaient Allah Azza wa Jal. Ça c'était les ibadats des sahaba, ridwanullah alayhim ajma'in. Et l'autre personne, le musulman à côté, ce qui est un peu plus notre cas, nous, en tout cas mon cas, moi, c'est celui qui fait son namaz, il veut bien venir, il le fait, il vient à sa salat. C'est pas qu'au moment de venir à la salat, il regarde les Simpsons, qui commencent juste au moment de la salat, les enfants ils sont devant la télé, et il dit papa, allons assis, regarde un petit peu les Simpsons. Non. Ah, bah, d'accord. Il y a des fois où on dit que non, c'est les enfants, ils sont petits, il faut leur donner du temps. Ça c'est quoi, ça s'achète. Dès que le temps, samedi soir, dimanche matin, n'importe quand. Donc, l'autre musulman qui est à côté, il est en train de faire la première rakat, il dit bon, là aujourd'hui, vendredi, demain, samedi, nous sortez l'heure, tel plan, nous fait comme ça, on va sortir, on va pique-niquer, on va aller chemin volcan, on va aller faire ci. Il commence déjà à préparer son week-end, préparer lundi, attention, ça c'est les deux premières rakat. Et les deux dernières rakat, il prépare le lundi maintenant, la reprise de la semaine. D'accord. Et puis le dernier qaïda, il est vacances d'un mois et demi là. Il dit on peut préparer en vacances, il m'a fait salam trop vite. Il dit bon, namaz, prochain namaz isha, namaz insa mourir sous ses chelles. Allah musta'an. Bon, c'est une caricature, mais malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'entre nous lorsqu'on est dans la namaz. Physiquement, on y est à la masjid. Nos pieds sont dans les soufouf avec nos frères musulmans dans les rangs, mais les cœurs, Allah musta'an. Hadith wa la haraj. Les cœurs sont partout, sauf devant Allah Azza wa Jal. Ce qui fait que notre salat et la salat des sahaba, c'est quand même distance entre le ciel et la terre. Et l'objectif que les sahaba ils pouvaient atteindre à travers la salat, tanha anil fahsha wal munkar, comme on avait déjà développé pas mal de fois, on ne peut pas atteindre, Allah musta'an. Malheureusement, on n'éprouve aucun mal en sortant de la masjid à retourner vers le péché. Pour nous, c'est normal. C'est comme si je donnais le droit à Allah, na'oudou billah, et quand je suis dehors, ben, c'est fini. Je reprends ma vie. Je reprends ma vie normale. C'est comme si que le musulman avait une vie religieuse et une vie normale. Non, il n'y a pas de vie normale. Parce que le verset qu'on répète tout le temps, mais ça il faut intégrer ça. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. J'appartiens à Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun. Allah nous a créé pour quoi? Pour faire son adoration, c'est tout. On appartient à Allah. Je respire pour Allah. Je me lève le matin pour Allah. Je me couche pour Allah avec l'intention de me réveiller dans la nuit pour faire l'adoration d'Allah. Quand je me lève le matin, c'est pour passer cette journée dans l'obéissance d'Allah avec l'idée de ne pas faire rien qui va provoquer le mécontentement, la colère d'Allah Azza wa Jal. Quand j'ai mes relations avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes parents, tout ça c'est pour Allah. J'aime mes amis pour Allah. Je m'éloigne de certaines personnes pour Allah. C'est ça la vie du mu'min. Il vit pour Allah. Ses pieds sont sur terre, mais son cœur est devant. C'est comme si son cœur est en prosternation permanente devant le trône d'Allah. Il sait que je suis là pour Allah. Et j'attends le moment où mon corps rejoint mon cœur là-haut. Quand Malik al-Maud reprend mon âme, « Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin » Qu'on adore Allah jusqu'à ce que la mort arrive. C'est pas que j'adore Allah ici et dehors, je suis monsieur tout le monde, non. Maintenant, on peut avoir une vie de famille, bien sûr. Il n'a pas été dit que le niveau spirituel doit être au top tout le temps. Non. Mais le niveau de vigilance, lui, ne doit jamais baisser. Il y a différence. C'est deux notions à maîtriser. Claire, je ne peux pas être au top spirituellement tout le temps. L'histoire de Sahaba qui, Hanzala, qui était avec le Prophète, et puis il retourne chez lui, il retrouve sa femme, ses enfants. Et là aussi, on a donné cet exemple. Je ne sais pas, dans le cas de l'assemblée, il n'y a pas trop longtemps, plus où ça va dans le on a dit que, il parle de l'histoire d'un Sahaba, hein, à Saint-Clotilde, ça. À Saint-Clotilde, il parle de l'histoire du Sahaba qui avait fait une erreur, là, hein, l'histoire de Ka'b, la Ghazwat Tabouk. On a dit que c'est intéressant de voir qu'un Sahaba, lui aussi, peut faire une erreur. Hein, il peut faire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il aurait dû faire, mais voyez sa réaction à ce moment précis. Et on avait cité des exemples également, oui, c'était au centre-ville qu'on avait parlé du hadith de Tamim ad-Dari sur Dajjal qui était sur une île. On avait dit que le Prophète avait dit aux Sahaba que personne ne se lève, que personne ne sorte, j'ai quelque chose à vous expliquer. Et les Sahaba sont restés. Et en parenthèse, les ulama, rahimahoullah, ils expliquent qu'il était de l'habitude des Sahaba, après la salat, ils rentraient chez eux. Il y en a qui restaient, mais il y en a qui rentraient. Il y en a qui avaient besoin de voir leurs femmes, leurs enfants, ou qui avaient besoin de retourner vers leur travail. Et ça, c'était important de souligner. Pour que nous voyions que les Sahaba étaient avant tout des êtres humains avec des besoins comme nous. Le Sahaba, il a sa femme, il a ses enfants. Ses enfants tombent malades comme les enfants du 21e siècle, voire plus grave encore, avec moins de moyens que nous. D'accord ? Ils avaient besoin de travailler aussi, cultiver leurs champs, vendre leurs objets, leurs étoffes, leurs tissus, tout ce qu'ils vendaient pour avoir leurs revenus aussi. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des malaïka. Il ne faut pas qu'on croie que le Prophète nous a demandé de suivre des gens qui vivaient dans la masjid, du matin jusqu'au soir, qui ne sortaient jamais, qui étaient dans le dhikrullah en permanence. Non ! Ils avaient leur vie de famille, ils avaient leur vie professionnelle, ils avaient leurs besoins. Mais quand ils étaient dans la masjid, c'était les meilleurs des hommes. Quand ils étaient dans leur travail, c'était aussi les meilleurs des hommes. Quand ils étaient auprès de leur famille, c'était aussi les meilleurs des hommes. Ça, c'était les qualités des sahaba. Donc là, on partit un peu loin là. Pour revenir, là on parlait de Hanzala, radiallahu anhu. Il retourne auprès de sa femme et ses enfants, et là il éprouve du plaisir à être auprès de sa famille. Comme n'importe quelle personne éprouverait du plaisir de nos jours. Quand vous retournez chez vous, moi que madame, c'est vraiment, donne un nom, d'accord, un tyran, vraiment quelqu'un de terrible, hein, Carabosse ou je sais pas quoi. Vous allez dire ça aux jeunes aujourd'hui, c'est quoi Carabosse, on est connu d'autres choses, c'est pas les mêmes références, d'accord. Moi que vraiment, c'est une torture. Chaque fois qu'on arrive à la maison, il y en a qui ont tâche la masse, mais il y en a qui ont tâche Tefal sur le front. À force qu'il y ait un coup de casserole avec madame. Mais d'une manière générale, quand un mari ou un père de famille retourne auprès de sa femme et ses enfants, on trouve une quiétude, une sakina. Et ça fait partie des ayatillah, des signes qu'Allah Ta'ala a mis sur la terre. Et dans les versets, en général, quand on parle du nikah, Allah Ta'ala dit qu'il a créé la femme, c'est il y a un repos pour l'homme. Quand un mari retourne auprès de sa femme, il y a un repos. Bien sûr, comme on l'a dit encore, si cette femme a eu la tarbiya qu'il fallait. Si elle a eu l'éducation islamique qu'il fallait, elle sait c'est quoi son rôle d'épouse, elle sait c'est quoi les droits de son mari, mais également même les devoirs de son mari, elle sait qu'est-ce qu'elle doit donner, quelle est l'ambiance qu'elle doit instaurer dans une maison. Quand le prophète sallam, il reçoit la visite de l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, pour la première fois, et que le prophète a tellement peur, il est angoissé, tellement qu'il avait peur que, on explique, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, à cet endroit-là, hein, vous savez, quand, il avait tellement peur que la veine à ce niveau-là bougeait, tellement le prophète avait peur. Est-ce que c'est un diable, est-ce que c'est un shaitan, je ne sais pas, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça montre aussi que le prophète est véridique, il ne sait pas qu'il attendait la révélation, tout d'un coup ça arrive. La première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est d'aller voir qui? Son épouse, Khadija. Parce que Khadija radiallahu anha savait trouver les mots. Elle savait trouver les mots pour réconforter son mari, pour l'accueillir. elle savait créer l'ambiance de quiétude, de sakina, l'ambiance de paix, construire un havre de paix pour accueillir son mari. Allahumma salli ala Muhammad. Ça c'est la femme musulmane. Donc, on disait que alhamdulillah, il retourne auprès de sa femme et ses enfants, et là il éprouve un certain contentement du fait de retrouver sa famille. Et là il se pose une question, il dit que, subhanallah, il dit que, il y a quelques instants j'étais auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'écoutais les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vraiment j'étais au top spirituellement. J'étais scotché aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'avais une crainte d'Allah extraordinaire dans mon cœur. Mais là, je retourne près de ma femme, mes enfants, c'est comme si que j'ai tout oublié. Alors il s'est dit quoi? Il s'est dit que peut-être que dans le fond, je ne suis qu'un hypocrite. Pourquoi? Et quand il est retourné, est-ce que quand il est sorti de la masjid, il est parti faire zina avec quelqu'un? Non. Est-ce qu'il est parti voler? Est-ce qu'il est parti tuer quelqu'un? Est-ce qu'il est parti accuser ou insulter ou humilier quelqu'un? Non. Il est retourné faire une bonne action. C'est une bonne action que de donner du temps à sa femme et ses enfants. Il est retourné auprès de sa femme et ses enfants. Il a senti un sentiment, il a ressenti la culpabilité uniquement parce que il a senti un baisse dans la crainte d'Allah. Mais en aucun cas sa vigilance n'a baissé. C'est pas que si un péché lui était proposé, il l'aurait signé tout de suite, il l'aurait fait, jamais de la vie. Mais c'est juste que il avait atteint un tel degré de iman, élévation spirituelle au prophète Prophète qui leur avait certainement fait un discours. Et arrivé chez lui, il sent que ça a diminué et qu'il redevient un père de famille ou un mari. Et là, il a eu un doute. Regardez la culpabilité, le sentiment de culpabilité de Hanzala, c'est par rapport à quoi? Uniquement par rapport à ce qu'on a décrit. Et si on compare avec Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, lorsqu'il a dit la vérité au Prophète, pourquoi il n'a pas participé à la campagne de Tabouk, il n'a pas commis d'erreur après ça. Mais Ka'b, c'était comme si que le monde s'était écroulé autour de lui. Il n'avait plus goût à la vie. Il n'avait plus goût à la vie. Ka'b et les deux sahaba disaient qu'ils passaient le matin, le jour, la journée et la soirée à pleurer chez eux. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là, je crois que c'est pendant 50 jours, ils n'ont pas eu le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et pendant ces 50 jours-là, ils pleuraient. Les deux compagnons, le matin jusqu'au soir, ils passaient leur temps à pleurer. Mais ils n'avaient pas fait un gunaka, ils n'avaient pas fait le zina, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas obéi à un ordre du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est tout. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était des gens qui avaient participé à la campagne de Badr. Et vous savez que parmi les sahaba, les meilleurs, les plus hauts degrés, ce sont ceux qui étaient présents à la bataille de Badr. Alors les ulama, rahimahoullah, ils disent, analysez ce comportement, analysez cette tristesse. Ils n'avaient pas fait un kabira. C'est pas qu'ils passaient leur journée et leur soirée dans le péché, et là ils se sont rendus compte, ils demandent tawba. Non, c'est une erreur, et c'est peut-être la seule erreur qu'ils avaient fait, de retarder leur voyage. C'est pas qu'ils se sont dit que nous on va casser les dates, on va cueillir les dates et on n'y va pas, comme les munafiqins. Non, eux ils se sont dit qu'il y a encore le temps. Principalement Ka'b, il savait qu'il avait un cheval très rapide. Il s'est dit que bon, je vais décaler mon voyage et je vais les rejoindre rapidement parce que mon cheval est plus rapide que les autres. Et puis, il a oublié, il a reporté jusqu'à ce qu'il n'y a pas eu de bataille. Les Romains ne sont pas venus au rendez-vous et les musulmans sont rentrés plus tôt, et là ils se retrouvent devant les faits accomplis. Les musulmans sont de retour et ils se rendent compte qu'il a perdu du temps, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait un guna kabir amn al-kabair comme nous on peut le faire aujourd'hui. Mais ces gens-là, ils sont prêts à pleurer 50 jours uniquement parce que Allah et son prophète à ce moment précis n'étaient pas satisfaits d'eux. C'est pas qu'Allah et son prophète n'étaient pas satisfaits d'eux depuis tout le temps, non. Des gens qui ont participé à Badr, au Uhud et les autres batailles, c'est le summum parmi les sahaba. Mais c'est juste que pendant ce laps de temps, Allah et son prophète n'étaient pas contents d'eux. Ce qui explique que pour eux, s'ils étaient morts, ça aurait été mieux pour eux. Ils n'avaient plus goût à la vie. Alors la question qu'on se pose, est-ce que moi, musulman, il m'est arrivé une fois de pleurer, ne serait-ce 5 ou 10 minutes, pour un péché que j'ai accompli? Alors qu'ils n'avaient pas fait, je répète encore, ils n'avaient pas fait de kabira. Mais nous, Allah musta'an, du matin jusqu'au soir, nous répétons parfois, et souvent ce sont les mêmes erreurs, ce sont les mêmes péchés, ce sont les mêmes fautes et souvent les mêmes manquements. Et c'est comme si que ces péchés-là font partie de notre quotidien. Et c'est ça le gros problème, qu'on a oublié c'est quoi l'obéissance, la soumission à Allah. On a oublié que Allah m'observe et je dois faire en sorte que je ne me mets pas dans une situation où Allah risque d'être en colère contre moi. Ça, c'est la définition de la taqwa. Alors regardez Ka'b ibn Malik, regardez Hanzala, leur réaction par rapport à une faute pour Ka'b et par rapport à une baisse de concentration pour Hanzala radiallahu anhu. Et le prophète m'a expliqué que si vous étiez toujours au même niveau, les anges viendraient vous voir et vous feraient moulakat, mais aucun être humain ne peut avoir un degré de iman stable et au top tout le temps. Mais la vigilance face au péché, ça par contre, ça ne diminuait jamais. Donc cet autre musulman qui est à côté, il pense à mille et une choses. Pendant ce sont deux salats, mais il y a un salat qui le propulse à un niveau exceptionnel, comme le salat des sahaba. Il y a un autre salat qui, le devoir était accompli, mais ça ne m'empêche pas que quand je sors, de retourner vers les péchés, de retourner vers les mêmes erreurs. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est, je ne cite pas de cas particulier, et vous allez dire que ce n'est pas le plus grave des péchés, oui, mais c'est flagrant. Quand je vois des musulmans qui viennent de la masjid, on sort Salat al-Fajr, on va acheter le pain, mais je vois des musulmans qui sortent de la masjid. Ils ont fait l'effort, ils sont venus à Salat al-Fajr, ils vont acheter le pain avec la boulangère, bonjour, ils donnent la main et tout, ou font la bise. Mais c'est quoi ça? Vous venez de faire Salat al-Fajr en jamaat, en congrégation. Ne me dites pas que quelqu'un qui se lève à la Salat al-Fajr, il ne sait pas qu'on ne fait pas la bise à une étrangère. Ce n'est pas possible. Un enfant, il sait. Ne me dites pas qu'un musulman qui fréquente la masjid, il ne sait pas que le prophète a dit « je ne donne pas la main aux femmes ». Je ne vous parle pas d'un cas. Vous êtes chez un docteur, tout d'un coup, il y a une situation vraiment compliquée. Allah pardonne. Allah pardonne. Dans les cas où vous êtes vraiment coincé, ça c'est Allah qui connaît notre niyat. Et puis chacun il agit selon sa taqwa. Mais volontairement, bonjour madame et tout ça. Mais c'est quoi ça? Quelqu'un qui a sobonné sur le café, sur la masjid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas compris vraiment c'est quoi iman. On n'a pas compris c'est quoi les limites. On n'a pas compris c'est quoi les interdits. On n'a pas compris c'est quoi la salat que je viens de faire. Et que cette salat là ne m'empêche pas malheureusement de faire les mêmes erreurs que je fais tout le temps. Allah musta'an. Donc, on avait commencé en disant donc il y a une relation entre soit au tariq où Allah a dit que ces gens-là ils font. Ils préparent, ils mijotent, ils planifient tout ce qu'ils peuvent imaginer pour nuire au prophète, pour nuire aux musulmans en général, mais en finalité la décision appartient à Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala fait déjouer les plans de ces personnes-là au moment des migrations, toutes les étapes, toutes les époques qu'on a expliquées, et Allah Ta'ala a accordé la victoire au prophète avec la conquête de Makkah. Et là on a vu encore la grandeur d'âme du prophète, on expliquait ça vendredi dernier avec un peu de détails. Et, subhanallah, comment le prophète a accordé son pardon à ses vieux ennemis de 20 ans, de plus de 20 ans. Il a eu raham pour eux. Il n'a pas torturé ses ennemis. Il ne les a pas décapités. Il ne les a pas fait du mal. Même pas emprisonné. Ça, c'était l'exemple que le prophète nous avait enseigné. Et mardi dernier, on expliquait en ville, analyser ce comportement-là avec ce qu'on a vu en Libye, sans parler de politique, quand on voit des musulmans qui disent « La ilaha », qui disent « Allahu Akbar », et qui sont en train de lyncher, torturer une personne, frapper quelqu'un qui en sang, jusqu'à le mettre à mort, jusqu'à l'imposer des supplices. On n'aborde pas de thème d'actualité ou de politique. On n'a pas l'habitude de le faire, mais analysez juste le comportement du musulman au XXIe siècle. Est-ce qu'il a compris que la khadkan a compris Rasulullah uswatun hasana? Est-ce que le prophète agissait de la sorte avec, allez on va dire, avec ses ennemis? Est-ce que cet homme-là, il était pire qu'Abu Jahl? Est-ce que cet homme-là était pire qu'Abu Lahab, les ennemis déclarés de l'islam? Maintenant, regardons bien quelle image nous donnons de notre religion. Quelle image? Et vous pensez que les médias, ils vont se priver de véhiculer tout ça? Pour eux, faire... Si, ça c'est le top pour un journaliste, hein. Si dans une image, ils peuvent avoir du sang avec la bande sonore du fond Allahu Akbar, c'est fini, c'est awans pour eux, c'est... Il est récompensé, c'est sûr. S'il peut faire une relation entre le sang qui coule et Allahu Akbar, il a réussi sa mission. C'est faire en sorte que les gens pensent que c'est une religion qui avance avec le sang qui est versé, avec la violence. Donc Allah pardonne les erreurs de nos frères, et qu'Allah nous pardonne, nous permette de donner la meilleure image, de rétablir la véritable image de notre belle religion, Inch'Allah. Donc, wassama idat al-buruj. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal commence par le qasam, un peu comme wassama et wattariq. On commence par wassama, par le ciel, wassama idat al-buruj, par le ciel aux constellations. Et on avait déjà expliqué, on ne va pas revenir sur les étoiles, on avait pas mal expliqué dans Wassama et Wattariq, on avait résumé que les étoiles ont été créées entre autres, Zinatun Nissama, pour embellir le ciel, également pour que ce soit un repère pour les gens qui sont en voyage, et également par ces étoiles-là, par ces boules de feu que nous voyons, par cela, Allah Ta'ala ordonne aux anges de chasser des shayatines qui essaient d'accéder au ciel pour recueillir des informations. Donc ça, on ne va pas développer, sachant que on a longuement abordé ce thème dans Wassama idatit Wassama et Wattariq. Donc Wassama idatil buruj par le ciel aux constellations. Wal yawm il maw'oud. Deuxième qasam, parce qu'il y en a trois. Wal yawm il maw'oud et par le jour promis. Allah Ta'ala fait qasam, là on passe à autre chose là. Wal yawm il maw'oud et par le jour promis. Vous avez bien compris qu'Allah Ta'ala fait qasam par le jour promis, il s'agit du jour du qiyam. Et en commentaire, les mufassirin disent que à maintes et maintes reprises dans différents versets, on a expliqué que même sur le plan logique, une personne cohérente qui est d'accord que l'être humain a eu un début, qu'on est né, un accent aigu, à partir de rien, celui qui accepte qu'on a été créé, qu'on est né à partir de rien, mimbab aoula, il est encore plus logique pour lui d'accepter que quand on meurt et qu'il reste des parties de notre corps, que ces parties-là peuvent reprendre vie. Il est plus facile que des parties restantes reprennent vie que quelque chose naît à partir de zéro. Bon, ça c'est un peu de logique. Et puis également, sur le plan psychologique également, l'être humain, on parle pas du plan religieux, hein, là on a tous l'image de Yom al-Qiyam, il n'y a pas de doute. Sur le plan psychologique également, chaque personne intérieurement, il ressent des frustrations, il ressent des injustices, et toute personne a intérieurement un espoir qu'un jour il y aura une justice. Et le fait d'avoir yakin, iman, yakin sur le jour du jugement, cela apporte un réconfort aux musulmans. Il n'y a pas de justice réelle de ce dunya. Dans ce dunya, quelles que soient les situations de la vie que nous vivons, nous constatons qu'il y a des choses qui sont anormales. Il y a des injustices, il y a des abus de pouvoir. Et la justice, on ne peut pas le rétablir dans ce monde. Il y a des gens qui vous insultent, qui vous humilient, qui vous boycottent. Il y a des gens qui sont racistes, il y a des gens qui sont sexistes, il y a des gens qui sont... Ça, yani, les frustrations, on les vit au quotidien quand on habite dans une société. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de Superman, il n'y a pas de Batman, il n'y a pas de justicier. On ne pourra pas être un justicier et nous pourra ramener la justice. Non, la justice, la vraie justice, elle est auprès du tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je citais le cas d'une autre personne, je connaissais cette personne. Le papa était très âgé, il est mort, Allah yarhamou. Il avait une maison dans tel endroit, il avait écrit que ça c'est pour mon petit-fils, en écrivant le nom. Et quelqu'un, l'autre génération est passé par derrière, a effacé, a changé le testament, a mis son nom à la place. C'est une injustice. Oui, carrément. Qui va perdurer jusqu'à quand? Ben, tout le temps. Jusqu'à ce que cette personne meure et tout. Et quand la personne va mourir, ça ira à ses enfants. C'est-à-dire, la personne qui a été opprimée restera opprimée. Mais toutes ces injustices qu'on peut vivre au quotidien, ça peut être des injustices de base ou des injustices plus profondes. Où est le adl? La justice, elle est au tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour rien si le Prophète m'a dit qu'il y aura des gens qui le jour de Qiyama se présenteront auprès d'Allah avec des salats, des zakats, beaucoup de bonnes actions. Mais وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَدْ ذَفَ هَذَا وَأَخَذَ مَالِ هَذَا. Ce musulman-là, il a fait beaucoup de bonnes actions. Mais en même temps, il insultait les gens, il humiliait les gens, il accusait les gens. C'est-à-dire, il faisait du tort aux gens. Ce qui fait que le jour de Qiyama, cette personne-là va se retrouver dépouillée. Et je n'exagère pas dans les termes. Il va se retrouver dépouillé de ses bonnes actions. Les opprimés vont venir, ils vont récupérer le droit. De quelle manière? Ils vont prendre les bonnes actions de ce musulman-là. Et s'il y a eu tellement d'opprimés, imaginez un patron, un chef d'entreprise qui a 50 salariés et il agit comme un tyran avec eux. Il fait volm, il ne les paye pas comme il le faut. Il est injuste. Chacune de ces personnes viendra réclamer son dû. Le jour de Qiyam. Et si les actions, les bonnes actions ont été puisées, il n'y a plus rien. Ils ont tout puisé, il n'y a plus rien. Ce sont les péchés de ces opprimés qui vont être greffés dans le compte de l'oppresseur. Ça, pour qu'on comprenne bien, c'est le hadith très connu, le hadith al-Muflis. C'est pour qu'on comprenne, mes chers frères, qu'il y a une justice, et cette justice-là, c'est le jour de Qiyam. Quand on parle du Qiyama, on doit être habité par de la crainte, on ne sait pas quelle sera la situation, mais en même temps c'est un réconfort que tout ce que j'ai pu vivre depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant comme situation injuste, Allah Ta'ala va rétablir la justice. Même, le Prophète dit même que le Qiyama, les animaux seront ressuscités et l'animal qui a donné, qui a écorné Lot injustement, aussi il aura son compte de joie de Qiyama. Pour qu'on comprenne que la justice d'Allah, elle est parfaite. Allah, il est adl, Allah est hakim. Donc, « وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدِ وَمَشُونَ » On terminera avec ça, le troisième qasam. Le troisième qasam est par le témoin et ce dont on témoigne. Alors, ça, on va développer la prochaine fois. « وَشَاهِدِ وَمَشُودِ » Lorsqu'on parle de « shahid », Allah Ta'ala, il fait le qasam par toutes les personnes qui vont témoigner le jour de Qiyama. Et parmi ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, et chaque personne de cette umma. Il faut savoir que chaque personne de cette umma va témoigner le jour de Qiyama. Également, les membres du corps d'une personne également vont témoigner le jour de Qiyama. Celui qui a utilisé un membre de son corps de l'erreur, de le péché, ce membre-là va témoigner contre lui. Il y a un verset du Coran où on parle de la peau qui va témoigner. Les gens vont dire à leur peau qui ont témoigné contre eux, mais pourquoi vous témoignez contre moi-même? C'est les parties du corps qui parlent contre la personne. Alors on est dans le monde de l'invisible. N'essayez pas de comprendre avec le cerveau de l'insan. Il dit que c'est Allah qui nous a donné la possibilité de dire ces choses-là, de témoigner, de parler, et c'est celui qui donne la possibilité à toute chose de parler. C'est-à-dire que le jour de Qiyama, il y a plein d'éléments, il y a plein de choses, il y a plein de makhlouqat qui vont témoigner. Et Allah Ta'ala fait qasam par toutes ces personnes-là qui vont témoigner. Ou un mashhoud, le mashhoud c'est le jour de Qiyama. Le mashhoud est... Et ce dont on témoigne, les mufassins disent que Fahoua Yawmul Qiyam, c'est le jour de Qiyam. Je pense qu'on va s'arrêter à là, Inch'Allah, parce qu'après il y a un point important à développer, c'est Qutil Ashab al-Ukhdud, l'histoire de Ashab al-Ukhdud. L'histoire, on aurait dû aborder ça en premier, parce qu'on a dit qu'il y a une relation entre la fin de la Tariq et ça. Mais l'histoire de Ashab al-Ukhdud, ça c'est l'histoire des personnes qui avaient iman en Allah et qui ont été tuées, qui ont été brûlées vifs. Par des gens, c'est notre communauté avant la communauté du Prophète, ils ont été brûlés vifs uniquement parce qu'ils avaient iman en Allah. Et les gens qui les ont fait subir ce châtiment, c'était des personnes qui s'asseyaient autour des fossés et ils regardaient les musulmans brûlés vifs, hommes, femmes, enfants, sans pitié. Donc Allah Ta'ala cite cet exemple de le Coran et ça nous fait comprendre également que même s'il y a eu injustice, encore une fois, ça nous ramène à l'histoire de justice et injustice, même s'il y a eu injustice de ce dunya, la pire des choses qui peut arriver aux musulmans, c'est quoi? C'est de mourir. Yani, au plus, quelqu'un vous en veut pour votre dîn, comme on l'avait expliqué la dernière fois avec les sahaba, au pire c'est quoi? La personne va vous tuer. Mais celui qui meurt pour défendre son iman, il sait qu'il aura le plus haut degré, le plus haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawfiq de comprendre. On a fait déjà nos 40 minutes, nos 37 minutes. On a encore 3 minutes. Alors dans ces 3 minutes, en 3 minutes inshallah, qu'est-ce qu'on est en train de vivre là à partir de ce soir? Les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Ça c'est important ça. C'est extrêmement important. Le prophète dit que afdalu ayyam ad-dunya ayyamul 'ash. Les meilleurs jours de ce dunya, ce sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et Ka'ab radiallahu anhu dit également que ikhtar Allah al-zaman fa habbu al-zaman ila Allah al-shahr al-haram. Jusqu'à la fin, il dit que les meilleurs jours parmi les mois sacrés, le meilleur mois parmi les mois sacrés, c'est le mois de Dhul-Hijjah. On commençait en disant que Allah Ta'ala choisit le temps et les meilleurs mois, ce sont les mois sacrés. Et les meilleurs mois sacrés, le meilleur mois sacré, c'est le mois de Dhul-Hijjah. Wa habbu Dhul-Hijjah ila Allah al-ashr al-awwal. Et la meilleure portion de Dhul-Hijjah pour Allah Azza wa Jal, c'est la première décade, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et ce n'est pas pour rien si dans Wal-Fajri, qu'on a déjà expliqué, Wal-Fajri wa layalin 'ash, Allah Ta'ala fait qasam sur les mufassirin par ces 10 jours de Ayyamul Hajj. Et les ulama, ils vont même plus loin. Certains ulama sont d'avis que les 10 jours de Dhul-Hijjah valent plus que la dernière décade du mois de Ramadan. Chaque musulman est conscient que la dernière décade du Ramadan, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais la dernière décade du Ramadan est exceptionnelle parce que elle abrite une nuit exceptionnelle. C'est la nuit du destin. Tandis que pour les 10 jours de Dhul-Hijjah, les ulama disent que ces 10 jours sont égaux en vertu, en fada'il. C'est pour ça que cette décade, c'est la meilleure décade du calendrier islamique. Et dans un hadith, Ibn Umar radiallahu anhu dit que laysa yawmun a'zamu 'indallahi min yawm al-jum'ah, qu'il n'y a pas un jour qui a plus d'importance pour Allah que le jour du vendredi. Laysa al-'ash, à l'exception de la première décade de Dhul-Hijjah. À chaque fois qu'on parle d'un moment important, on dit à l'exception de la première décade de Dhul-Hijjah. C'est pour qu'on comprenne bien que ces 10 jours que nous sommes en train de vivre, ce sont là des jours extrêmement extrêmement importants. Et le hadith de base stipule que les meilleurs, il n'y a pas un moment de l'année où les actions sont plus appréciées par Allah Azza wa Jal que ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. C'est vraiment le moment pour se dépasser mutuellement de l'accomplissement des bonnes actions. Parmi les choses qui sont mustahab, il n'y a rien qui est obligatoire. Il n'y a pas de choses qui sont faraz. Par contre, ce qui est bien de faire, ce qui est mustahab de faire pendant ces 10 premiers jours, tout d'abord, celui qui peut jeûner. Anna nabi, hadith Hafsa, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana la yada'u siyama ashura wal ashr wa thalathati ayyam min kulli shahr. Le prophète n'abandonnait jamais le jeûne de Ashura, c'est-à-dire le 10 Muharram, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah et 3 jours de chaque mois. Donc celui qui a la possibilité de jeûner dès demain, ce qui a fini de faire le suhur ce soir, et de jeûner les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, fabiha wa ni'ama, c'est une grande faveur de la part d'Allah, sachant qu'il faut meubler ces 10 jours-là avec le maximum de bonnes actions. Alors si on passe la journée de le jeûne, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, celui qui ne peut pas jeûner les 10 jours, au moins fait le niya, mais l'intention ferme de jeûner le 9e Dhul-Hijjah, c'est-à-dire le jour de Arafat. Parce que concernant le jeûne du jour d'Arafat, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Siyamu yawmi Arafat, ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu allati ba'da. Que j'ai espoir qu'Allah ta'ala pardonne les péchés de l'année passée et de l'année qui va venir uniquement par le biais du jeûne du 9e Dhul-Hijjah, le jour de Arafat. Également, il est mustahab de passer ces nuits tant que possible dans l'adoration d'Allah. C'était l'habitude d'Imam al-Shafi'i rahimahullah. Et Saïd ibn Jubair en a dit que la tutfi'u surajakum layali al-ashr. C'est la citation de Saïd ibn Jubair, dit que n'éteignez pas les lumières lors des nuits d'Al-Hijjah. Vous voulez dire que passer ces nuits en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûne, si on peut les 10 jours, si on ne peut pas, le 9e Dhul-Hijjah. Qiyamul Layl, tant que possible. Si on ne peut pas faire toute la nuit, bien sûr, on travaille le lendemain. Mais on fait comme si on était dans le mois de Ramadan. On se réveille pour le Tahajjud. On se réveille, on peut se mettre en mode Ramadan. On se réveille pour le Tahajjud, on fait doua et puis on fait le Sihri. Pour faire le jeûne Nafil cette fois-ci, d'accord. Troisième chose, le Dhikrullah. Fais le maximum de Dhikrullah. Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la habbu ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa akthiru fihinna min at-tahlil. Faites le maximum de tahlil, la ilaha illallah, wa at-takbir Allahu akbar wa at-tahmid alhamdulillah. Et il était de l'habitude de Omar ou de Ibn Omar entre les deux, lorsqu'ils allaient dans le bazar également, ils lisaient à voix haute le takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa illa alhamd. Essayez de lire au maximum de fois également le takbir. Donc Allah n'a tawfiq de... Bon, c'était juste les 5 points qu'on devait citer. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous accepter, de nous choisir pour passer cette première décade comme il le faut dans l'adoration d'Allah. Et inutile de préciser que quand on parle d'adorer Allah au maximum, hein, de manière explicite, on fait comprendre également qu'on abandonne les péchés. D'accord ? On fait en sorte de minimiser, voire essayer de faire en sorte de ne pas commettre du tout de péché durant cette première décade, avec le niyat, l'intention d'essayer d'abandonner définitivement ses péchés. Donc par exemple, si quelqu'un a l'habitude de fumer, alors là on parle des péchés les plus bas, là, hein, si quelqu'un a l'habitude de fumer, il se dit bon, allez, 10 Dhul-Hijjah, je respecte ces 10 Dhul-Hijjah, sachant que c'est quelque chose qui est makrouh, pour ne pas dire haram dans les autres madahim, j'arrête. Puis si Allah donne un tawfiq avec ça, la personne arrête complètement, alhamdulillah. Si quelqu'un a l'habitude de je sais pas moi, de faire la bise aux femmes, ou quelqu'un a l'habitude de Allah musta'an, on est au lycée, on a l'habitude d'assise avec les filles, tout ça, comme ça se passe malheureusement, hein, ben on fait une niyat que voilà, 10 Dhul-Hijjah, là c'est des jours très importants. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullah.